et France 24 présentent
Mardi politique.
C'est l'heure de Mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière.
Bonsoir.
Nous recevons ce soir François Rebsamen, ancien ministre du Travail et maire socialiste de Dijon. Bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors c'est une fin de quinquennat un peu ébouriffante que l'on vit là. Un président en exercice qui se fait harakiri et renonce à se représenter à sa propre succession. Un premier ministre censé être le fusible du président. C'est le contraire qui arrive. Un Manuel Valls qui part sur les chapeaux de roue en campagne pour les primaires. Le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve qui devient premier ministre. Décidément, rien de tout cela n'était prévu, mais on a envie de dire qu'avec François Hollande, on ne s'ennuie jamais. Alors, vous venez de publier un livre en toute confidence chez Stock. Vous reconnaissez dans ce livre avoir vécu comme une énorme déception de ne pas avoir été nommé ministre de l'Intérieur en 2012, alors que vous maîtrisez le sujet, vous aviez tout un arsenal de réformes. Alors, pourquoi avoir, dans le fond, refusé aujourd'hui le poste dont vous rêviez? Vous l'avez tweeté. Vous avez dit que vous aviez refusé ce poste. On a envie de vous dire qu'on ne comprend pas votre décision.
Je la comprends très bien. En 2012, je m'étais préparé, d'ailleurs à la demande du président de la République, à occuper ce poste. C'est son pouvoir, il n'a pas choisi de me nommer. J'en ai éprouvé une déception, pas trop pour moi, j'arrive à tourner la page assez facilement. Je suis d'un naturel optimiste, donc je me suis tourné vers l'avenir. J'ai éprouvé une déception sur l'instant, j'étais bien préparé. On m'a même dit, je ne sais plus dans quel livre j'ai vu cela, c'est que j'étais trop préparé. Et donc, voilà, c'est comme ça.
C'était la première promesse de campagne non tenue de François Hollande.
Ah, ça, c'est vous qui le dites.
Il y a un point d'interrogation.
Vous l'avez promis.
C'est une promesse. Quand on fait un gouvernement, il y a des contraintes, il y a la parité, il y a des gens qui se sont imposés, d'autres qui ne se sont pas imposés. Peut-être je ne m'étais pas imposé. J'accepte le jugement du président de la République. Et depuis, j'ai été ministre du Travail. J'ai dû quitter malheureusement, je le dis à chaque fois parce que on ne comprend pas ça, j'ai dû quitter malheureusement mon poste parce que celui que j'avais mis à ma place à la mairie de Dijon, celui que j'avais désigné, est décédé d'un cancer, c'était pas prévu. J'avais promis que je reviendrais s'il n'était plus là, pour une raison ou une autre. Donc j'ai regagné la ville de Dijon. J'ai lancé des chantiers. Je suis président de ce qui va être une métropole. Dijon est une grande et belle ville. J'en suis fier d'en être le maire. Et donc quand on m'a proposé, le président de la République m'a proposé d'être ministre de l'Intérieur, eh bien j'ai dit, mais je suis maire de Dijon, je suis président de la communauté urbaine, je le reste.
Ça c'était ce matin. Donc vous recevez un coup de téléphone.
C'était.
C'est intéressant de savoir. Vous recevez un coup de téléphone de François Hollande. Il vous dit, François, vous vous tutoyez.
Oui.
Veux-tu être mon ministre de l'Intérieur?
Veux-tu être ministre de l'Intérieur?
Et vous lui répondez, non merci.
Non merci.
Et il n'insiste pas.
Non. Il me connaît. Il sait que bon.
Mais est-ce que
c'est pas majeur, hein.
Non, j'entends bien.
Il y a quelqu'un
mais
de très bien
que
qui
vous,
est.
Vous dites que vous voulez tenir votre parole pour votre ville, mais quand on est un homme politique, servir son pays en étant ministre sur un dossier que l'on connaît parfaitement, est-ce que c'est pas une forme de désertion le pouvoir vous tend la main.
Je comprends cette question. Mais on nous reproche tellement, vous savez, de courir après les postes en croyant que être ministre, c'est.
On a l'impression que vous boudez. Tu ne me l'as pas donné début de mandat. Pour 5 mois.
Non, je ne boude pas. Il y a une tâche qui est là, qui est passionnante et que va assumer Bruno Le Roux. Et très bien, c'est de protéger les Français. Et ça, c'est quelque chose qui n'était d'ailleurs pas prévu en 2012, parce qu'il y a eu des événements nouveaux avec malheureusement les attentats terroristes. Et donc, il l'assume, il va le faire très bien.
Alors pourquoi, puisque vous avez refusé le poste, François Rebsamen, pourquoi le faire savoir? Puisque finalement, ça revient à faire savoir aussi pour Bruno Le Roux qu'il n'était pas le premier choix.
Oui, mais on n'est pas toujours le premier choix dans la vie, hein. Ça, c'est pas grave.
Vous en savez quelque chose?
Ça peut être un peu désobligeant.
Non, non, ça ne l'est pas du tout. Non. J'ai eu Bruno Leroux au téléphone.
Il n'a pas l'impression que vous lui avez fait de mauvaise manière.
Oui, mais je suis très heureux. Non, au contraire, peut-être. Je suis très heureux qu'il soit ministre de l'Intérieur. Il va faire ça très bien. Comme d'habitude, je me permets de le dire, les radios annonçaient que j'allais être ministre de l'Intérieur. Et moi, je ne voulais pas qu'on croie que j'avais... J'étais comme ça, manipulable. Il va être ministre de l'Intérieur. Il est ministre de l'Intérieur. Il est ministre de l'Intérieur. Ah, j'aurais pas été ministre de l'Intérieur. Non, je suis maire de Dijon. Je suis président d'une communauté urbaine importante dans la France. Voilà, je sers les habitants de ma ville.
Alors, c'est vrai qu'il reste 5 mois et on se dit qu'une fin de quinquennat, c'est fait, ces 5 mois pour éteindre doucement la lumière, parce que vous le savez tous, est-ce que la présidentielle se jouera à gauche? Vous connaissez, je pense, la réponse. Que va-t-il se passer pendant 5 mois? Je vous propose d'écouter donc Bernard Cazeneuve, donc le nouveau Premier ministre, qui était à la passation de pouvoir, donc à 16h, avec donc Manuel Valls. On l'écoute.
Il reste quelques mois, et vous êtes mieux placé que quiconque pour savoir qu'en politique, chaque jour est utile. Que chaque jour compte. Et nous utiliserons par conséquent tous ces jours, tous ces mois que nous avons devant nous pour donner de la force à la République, donner de la force à la France, pour lui permettre d'affronter les défis qu'elle a devant elle.
Alors on viendra sur le cas de Manuel Valls, mais 5 mois, effectivement, 5 mois pour quoi faire? Les réformes, c'est terminé. Donc comme l'a dit François Hollande ce matin, 5 mois pour protéger les Français, 5 mois, pourquoi faire?
C'est déjà majeur. Continuer ce qui a été fait, continuer de démanteler, on parle du ministère de l'Intérieur et du gouvernement, puisque Bernard Cazeneuve a assumé cette fonction éminente pendant 2 ans. Donc, protéger les Français, c'est quand même la première des choses. Et puis, continuer de redresser notre pays, je le dis, il se redresse au niveau économique, et engranger petit à petit pour redistribuer aux Français les fruits de leurs efforts. C'est une tâche exaltante, mais courte, c'est vrai. Mais
redistribuer ce que vous leur aviez pris en début de quinquennat avec le gourdin fiscal.
Oui, mais on peut dire les choses comme ça. Mais vous savez, il y a beaucoup de aujourd'hui de retours sur leur investissement parce qu'on a permis aux entreprises de retrouver des marges. On a, à travers le pacte de responsabilité, mis 50 milliards d'euros dans les entreprises. Du coup, leurs marges ont bondi. Du coup, elles peuvent réinvestir, elles peuvent réembaucher. Et ça, les Français, ils en sont contents. Ils voient ce qui se passe et ils en sont, j'en suis sûr, heureux quand on va voir à la fin de l'année que pour la première fois depuis...
On reparlera de l'économie dans quelques
instants. D'accord.
Enfin, Bernard Cazeneuve, c'est le meilleur choix que François Hollande pouvait faire comme Premier ministre. Vous savez que bon, vous étiez cité pour l'Intérieur, mais comme Premier ministre, on a parlé de Stéphane Le Foll, de Michel Sapin, de Marisol Touraine, de Najat Vallaud-Belkacem. C'était le meilleur choix, Bernard Cazeneuve, le choix de la raison, le choix du sérieux?
C'est un choix qui est celui d'un homme qui a réussi dans toutes les fonctions qu'il a occupées progressivement. Il a commencé comme, je crois, ministre délégué aux affaires européennes. Il est passé ensuite au budget et puis à l'intérieur et Premier ministre. Dans chaque poste qu'il a occupé,
il reste plus qu'une marche à gravir.
Il a réussi. Si on était sûr qu'il...
Ouais, pourquoi pas. Il pourrait y penser, non?
Je ne sais pas. Ça, il faut lui demander, je ne sais pas.
Non, justement, on peut considérer que François Hollande l'a choisi parce que, justement, il n'aura peut-être pas des velléités.
Oui, je pense que à 5 mois de la fin de ce quinquennat, il a choisi quelqu'un qui était déjà en place, solide, sur un sujet, on vient de l'évoquer, qui est quand même majeur, à savoir quelqu'un qui connaît parfaitement le fonctionnement des forces de l'ordre et de la gendarmerie et la protection nécessaire.
C'est un gouvernement de confiance.
Je le crois.
Alors, Bernard Cazeneuve est à Matignon parce que Manuel Valls a quitté Matignon pour se consacrer pleinement à sa candidature. Il s'est déclaré hier depuis sa ville d'Evry. Et au cours de cette déclaration, il a parlé de François Hollande dans ces termes. On l'écoute.
À François Hollande, je veux dire mon émotion. Mon affection. Sa décision est celle d'un homme d'État qui place l'intérêt général au-dessus de tout. Elle nous oblige, tous. Je veux lui dire la chaleur de mes sentiments. Ils se sont forgé à jamais dans le prix douloureux que notre pays a payé dans son engagement pour la liberté.
Pour vous, François Rebsamen, qui êtes ce qu'on peut appeler un proche historique de François Hollande, quand vous entendez Manuel Valls parler comme ça, est-ce que vous avez l'impression qu'il a des accents de sincérité ou est-ce que vous vous dites qu'il est quand même en train un peu de danser autour d'un cadavre encore chaud ?
Oh non, non, non. D'abord, le président de la République.
Vous voyez bien ce que je veux dire.
Je comprends très bien l'image. Mais ce que je veux dire là, c'est que oui, je trouve qu'il avait dans ce discours, il avait des accents de sincérité parce qu'ils ont vécu des moments forts entre eux, ce qui n'empêche qu'il peut y avoir des moments de tension. Mais ils ont vécu des moments très forts. Je le sais parce que je m'en suis entretenu et j'en ai vu une partie au moment des attentats, notamment ceux du Bataclan. Et ceux de Charlie, et vous savez, ça forge une histoire de vivre ces moments-là ensemble. Alors là, pour le coup, au service des Français, dans la protection, en prenant des décisions qui sont des décisions très graves, qui concernent la vie de nos concitoyens.
Cependant, sur François Hollande, vous dites depuis longtemps que c'était le candidat naturel. Vous aviez dit François Hollande est par essence institutionnellement le meilleur candidat. Oui. Justement, alors, on va essayer de comprendre ce que vous entendez par essence. Mmh. Et est-ce que, dans le fond, Manuel Valls n'a pas fait un coup de force institutionnelle en disant à François Hollande, écoute, tu n'es plus en mesure d'être le candidat de notre camp?
Alors, pourquoi était-il et pourquoi disais-je que François Hollande était le meilleur candidat
Par essence,
parce que il était, avant d'annoncer qu'il ne serait pas candidat, il était situé exactement au centre de la gauche. Et ce que tout le monde, les médias brocardaient comme la synthèse, c'était cette capacité qu'a eu la gauche depuis François Mitterrand de réaliser ce rassemblement de ceux qui étaient plus sur une ligne sociale libérale, ce qui est le cas d'Emmanuel Macron et de Manuel Valls, et ceux qui étaient plus par nature à gauche ou sur une ligne un peu frondeuse.
Marxiste.
Marxiste, non, on a encore la gauche de la gauche. Plus frondeuse, on va dire, plus frondeuse. Donc, cette capacité qu'avait eu François Mitterrand à rassembler, cette synthèse mitterrandienne, ce talisman du rassemblement, il l'avait pris, François Hollande. Et donc, je pense toujours que c'était le meilleur candidat. Mais il n'a pas...
Même après le livre.
Oui, même après le livre. Et c'est pour ça que là, je regarde les choses qui se passent, parce que je considère que il faut... il y a encore une semaine, je défendais la candidature de François Hollande.
Ouais. Donc, il faut laisser un peu de temps pour reprendre
mes esprits, regarder les projets, les programmes, voir comment quelqu'un va rassembler. J'espère que Manuel Valls va y arriver. C'est ça.
Quoi. Alors, il y a deux choses par rapport à ce que vous dites, en fait. Parce que dans cette même déclaration, vous disiez... Il ne peut pas se dérober.
Oui, c'est vrai, je le pensais.
Il s'est dérobé, François Hollande.
Il a analysé la situation. Oui, il a analysé la situation.
Et c'est une dérobade.
C'était pour moi une manière de le pousser à être candidat. Ouais. Jusqu'au bout, j'ai essayé de le pousser. Vous ne me ferez pas dire que je vais dire du mal de
Hollande. Non, non, c'est pas chercher à faire du mal, c'est juste de la logique.
Il ne peut pas se dérober.
Il ne peut pas se dérober. Or, il s'est dérobé.
Oui, ça voulait dire... tu ne peux pas faire autrement que d'être candidat. Voilà.
Quelle était l'analyse, dans le fond, qu'il a faite pour prendre cette décision ?
Je pense que il y a un phénomène que au début j'avais rejeté et qui finalement s'est imposé, c'était le problème de la primaire. Je pense qu'un président de la République, personnellement, je le pense, un président de la République sortant n'a pas à se soumettre à une primaire. Et donc, je pense que c'est une erreur collective que nous avons faite en proposant au président d'entrer dans une primaire.
C'était Martine Aubry.
Ça, c'est Cambadélis aussi qui a un peu poussé dans
ce sens. Oui, mais Cambadélis, c'était dans son rôle, on va dire les choses comme ça, en essayant de rassembler, parce qu'il y avait les frondeurs qui contestaient, une aile réformatrice qui voulait s'émanciper, et donc il a dit le seul moyen de créer une dynamique, c'est... Mais on n'a pas mesuré quand ça a été décidé il y a six six mois. Et je pense que François Hollande ne l'a pas fait non plus, les effets pervers que ça allait avoir. Et les effets pervers, c'est que moi, je pense que ça abaisse la fonction. Je vais vous dire ce que je pense vraiment. C'est pas un président de la République sortant en exercice, ne peut pas se soumettre à une primaire, aller débattre, j'ai rien contre, je sais pas, Marie-Noëlle Lienemann, par exemple, même si on me dit qu'elle va sortir, j'ai rien contre elle, mais aller débattre un soir avec Marie-Noëlle Lienemann, et puis le lendemain matin, parler de la stratégie européenne avec Madame Merkel, mmh. Ou même décider qu'il faut que nous avions bombardé telle ou telle cible. Il y a quelque chose qui me semble impossible.
Et il n'y avait aucun moyen, effectivement, il aurait été poursuivi, on va dire, juridiquement, en tout cas, ou même moralement, le fait de l'avoir promis et de ne pas le faire. Il n'y avait aucune solution pour qu'il enjambe cette primaire.
J'ai accepté sa position, je l'ai salué, parce que c'est assez rare, quand même, de voir quelqu'un qui lucidement analyse une situation et dit je n'y arriverai pas. Voilà. Et pour la France, je ne veux pas la baisser, je ne veux pas rentrer dans une primaire, etc. Moi, j'étais pour qu'il soit candidat, même par-delà la primaire, c'est vrai. Je pense que je n'étais pas le seul.
Mais François Absamène,
ça n'a pas suffi. Ma force de conviction n'a pas suffi.
Est-ce qu'on lui a savonné la planche à François Hollande?
Non.
Personne?
Non, je pense pas. Je pense pas. Il y a eu des moments de tension, mais
on pourrait dire le livre, par exemple, le fameux livre de Davet et l'homme, n'a pas été instrumentalisé, notamment par Manuel Valls.
Je ne sais pas si le livre a été instrumentalisé, mais
instrumentalisé. Par Barthelone,
mais le livre a eu un mauvais effet, évidemment, parce que moi j'ai lu ce livre en entier. C'est l'histoire d'un quinquennat raconté, mais la sortie de quelques feuilles, bonnes feuilles, comme on dit dans le langage médiatique, au moment où il faisait son interview dans le Nouvel Obs, a cassé un élan, oui, a cassé un élan qui était là, un appel qui était prêt, à tout un travail de rassemblement que nous avions préparé.
Donc d'après vous, pas de stratégie, il y a eu une stratégie quand même d'empêchement, quand je rappelais Barthelone, Claude Barthelone, le président de l'Assemblée nationale, qui a quand même lâché les chiens, et Manuel Valls qui parle de la colère et de la honte des militants.
Oui, mais je pense que c'est un mauvais mot qu'a employé Manuel Valls, parce qu'on ne peut pas avoir la chaleur des sentiments et avoir honte du président de la République. Moi, je n'ai pas honte de François Hollande.
Il a été déloyal, Valls?
Non, il avait envie, il sentait, vous savez... L'analyse en politique, c'est comme ça. Il y a un moment, on sent que l'un flanche, hésite, et il a la force, Valls.
Il a l'énergie.
Il a l'énergie. Personne ne le conteste. Il a cette
comme
force.
Comme Sarkozy.
Il l'a senti. Il a senti à ce moment-là qu'il pouvait effectivement forcer la donne. Voilà, il l'a fait, mais.
Et ça lui a coûté à François Hollande de ne pas y aller, de ne pas y aller.
Oh, je pense, oui. Je pense. Je n'ai pas eu cette discussion avec lui, donc je ne peux pas vous le dire, mais je le pense. En tous les cas, ça a coûté à beaucoup de militants, beaucoup de gens qui croyaient encore en lui.
Alors la question maintenant, c'est de savoir si Manuel Valls va être capable de faire le rassemblement. Et ça risque d'être difficile. En témoigne cette première réaction d'Arnaud Montebourg, hier, juste après la déclaration de candidature de Manuel Valls.
Il explique vouloir unifier les gauches. Il les a divisées avec la déchéance de nationalité. Et il est maintenant le premier défenseur de l'unité de la gauche, alors qu'il a théorisé les gauches irréconciliables.
Quand vous entendez ça, est-ce que vous vous dites que ça va être difficile pour Manuel Valls?
Oui, mais là, je veux dire, la primaire oblige à forcer le trait dans l'opposition des uns et des autres. On l'a vu à droite aussi, quand François Fillon avait dit à Nicolas Sarkozy que quand on est mis en examen, je crois, quelque chose comme ça, on n'est pas appelé à se présenter. Le général de Gaulle avait donné la leçon. Des phrases comme ça, elles étaient très fortes aussi. Donc, moi, je sais que Arnaud Montebourg avait appelé le peuple de droite, excusez-moi de l'expression,
à venir
voter pour battre François Hollande. J'avais saisi la haute autorité de la primaire, parce que je trouvais que ses propos étaient déplacés. Et donc, j'espère que maintenant, Arnaud Montebourg est rentré dans le rang sur ce genre de propos. Voilà, parce que c'est pas correct. On a le droit de débattre, on a le droit d'appeler les gens de gauche à venir voter, mais dire cela comme ça, c'était pas bien.
Mmh. Et Arnaud Montebourg, aujourd'hui, vous le sentez donc déterminé à écrabouiller ses adversaires, en l'occurrence la droite de gouvernement?
Mais il en a fait partie, hein. C'est quand même ça qui est drôle. Il en a fait partie, et puis je pourrais dire quand même qu'il, non seulement il en a fait partie, mais il a fait partie de sorte de mini-putsch à un moment, puisque avec Benoît Hamon, ils ont fait alliance avec Manuel Valls pour faire partir Jean-Marc Ayrault. Donc voilà, donc, mais ça c'est la vie publique, hein, voilà.
Voilà, c'est la fin de cette première partie de Mardi Politique. Je vous rappelle que vous pouvez réagir sur le hashtag MardiPol, Roselyne.
Oui.
Et on se retrouve dans 5 minutes, le temps de faire un petit point sur l'actualité avec notre invité François Rebsamen.
Et France 24 présente
Mardi Politique.
Retour dans Mardi Politique avec Frédéric Rivière, notre invité, François Rebsamen, ancien ministre du Travail et maire socialiste de Dijon. François Rebsamen qui a donc refusé le poste de ministre de l'Intérieur, qui a dit non, qui s'est payé le luxe de dire non à François Hollande. Il nous a expliqué dans cette première partie pourquoi. On va continuer sur le cas Manuel Valls. Vous expliquiez il y a quelques instants le paradoxe de Manuel Valls, mais il y en a un deuxième. Je vous propose de l'écouter. C'était hier, donc en direct d'Ivry, où il annonçait qu'il était candidat et bien sûr qu'il démissionnerait.
Ma candidature est celle de la conciliation, elle est celle de la réconciliation. Je pose donc ce premier acte pour l'unité, parce qu'aujourd'hui, j'ai une responsabilité. Rassembler, oui, rassembler.
Voilà le mot, il n'a que le rassemblement à la bouche.
Il a raison.
Bah, écoutez, on va voir si en tout cas il peut le faire. C'est de gauche irréconciliable, c'était signé Manuel Valls. Cette gauche ringarde, hein, qui est la vieille gauche, et puis la gauche de gouvernement. Il a dit hier soir ne pas vouloir gouverner par ordonnance, or il a utilisé deux fois le 49-3. Il dit vouloir baisser les impôts, l'objectif de tout candidat, et il était ministre dans un gouvernement qui a mis le gourdin fiscal sur les Français.
Il a baissé les impôts ces deux dernières années quand il était Premier ministre.
Oui, mais quand il était dans un gouvernement.
Quand il était Premier ministre, il a contribué.
J'entends bien, mais il a été quand même.
Bien sûr, il était membre d'un gouvernement où on avait augmenté
donc,
les impôts.
Mais... ce rassemblement, est-ce que là, Manuel Valls n'est pas en train de se renier? C'est-à-dire, Valls, on attend qu'il fasse du Valls, et il fait quoi dans le fond? Il fait du Hollande? La synthèse.
C'est ce que je disais tout à l'heure, hein, quand je parlais de cette synthèse mitterrandienne, excusez-moi de l'expression, mais il faut qu'il rassemble. Et donc, il a dit lui-même hier que quelquefois il avait eu des mots qui avaient pu choquer, qu'il le regrettait. J'ai trouvé que c'était vrai et qu'il avait raison de le dire. Et donc,
il n'a pas dit lesquels, mais bon.
il va avoir d'autres occasions de s'exprimer, je pense. Donc, appeler au rassemblement, vouloir rassembler, c'est bien. Maintenant, on va voir comment ça se passe.
Cet art de la synthèse, est-ce que ça n'était pas une caractéristique spécifique de François Hollande que Manuel Valls n'a pas du tout, lui, justement?
On va voir. Je ne porte pas jugement à cet instant. Vous savez, les situations font...
C'est un sanguin, Manuel Valls. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à diviser, qui se met en colère.
Il prend des décisions.
Oui, mais il provoque aussi,
il
parfois.
Il a de l'autorité.
Vous retournez à chaque fois en compliment.
Je ne veux pas dire du mal de Manuel Valls.
Il faut entendre que vous allez le soutenir, vous, dans la primaire.
J'attends de voir. J'attends de voir.
Je suis un peu
orphelin, là, faut me permettre de le dire comme ça. Il y a 5-6 jours, je poussais François Hollande à être candidat, même si ça se trouve sans respecter les primaires. Et donc, jeudi soir, l'annonce que j'avais senti venir 2-3 jours avant m'a...
Vous n'étiez pas dans la confidence. Personne ne l'était, visiblement.
M'a accueilli à froid. De toute façon, si je l'étais, je ne vous le dirais pas. Donc, c'est simple. Mais j'avais senti les choses. On avait senti quand même qu'il y avait un doute, qu'il y avait une pression. Il y avait une pression que faisait Manuel Valls, d'ailleurs. Il y a eu l'article, dans le JDD, il y a eu des propos. Donc voilà.
Vous parlez bien d'une pression de Manuel Valls. Donc il a quand même un petit peu contribué.
Ça, tout le monde l'a vu, bien sûr. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, quand j'ai dit, il a senti, vous savez, à un moment, la force, il a cette envie, il a cette force d'être candidat, et donc il a poussé la porte à un moment.
Mais quand vous dites, j'ai envie, j'attends de voir, mais de voir quoi?
Mais sa capacité à rassembler, comment dire, il n'y a pas que un premier discours, c'est bien un premier discours, mais après, comment il va expliquer, comment il peut rassembler, comment il va faire, quelles sont les propositions qu'il va porter, qui peuvent permettre de s'y reconnaître.
Ce serait quoi? C'est-à-dire, est-ce qu'il va se convertir à une politique de la relance? Est-ce qu'il va se convertir à l'étatisme?
Il est pragmatique. Et ça, c'est une bonne chose. C'est un pragmatique. C'est-à-dire que, vous savez, maintenant, aujourd'hui, on arrive avec des idées toutes faites, puis l'économie, on constate où elle en est, et ce qu'il faut faire en fonction de la situation qu'on trouve. Donc, les schémas qu'on veut plaquer a priori, on voit que ça marche pas. Donc, il est pragmatique, c'est une très bonne chose. Mais il faut... moi, je préfère... Le Valls de la loi que j'ai portée sur le dialogue social, au Valls de la loi travail avec le 49-3. Moi, j'ai pas eu de 49-3 pour ma loi. Et donc, il y a des positions qu'il faudra qu'il explique. Voilà, il y a des choses qu'il veut faire et des choses qu'il ne peut pas faire s'il veut rassembler.
Sa capacité à rassembler, justement, parce que c'est très important, vous le dites. Comment vous allez la mesurer? Ça va être quoi l'échelle de mesure? Vous allez attendre de voir si certains candidats se disent « bon, on se range derrière lui ».
Non, je vais l'écouter. Je vais peut-être nous allons le rencontrer. Je ne sais pas. Nous allons discuter
mais
avec
le
lui.
Le rassemblement, c'est à un moment donné, c'est ramener les gens derrière soi.
Oui, bien sûr. Mais attendez, il est candidat depuis hier soir.
C'est bien à cette aune-là que vous allez mesurer.
Mais rassembler
sa capacité.
Qui rassembler Montbourg à Mont,
ce grand centre des électeurs socialistes.
Faire rentrer Macron dans le giron. Mélenchon.
Oui, moi je souhaiterais que
Mélenchon aussi.
Je souhaiterais qu'Emmanuel. Non, là, il y a une différence. Non,
c'est la primaire de Macron à Mélenchon.
Oui, bien sûr, j'ai demandé ça. Moi aussi, je demande ça. Mais je pense que Emmanuel Macron devrait être dans la primaire. Oui, je lui dis là, Emmanuel Macron. Emmanuel participe à la primaire pour que on puisse avoir un candidat, parce que je reste persuadé que un candidat peut gagner l'élection présidentielle aujourd'hui. Un candidat de gauche peut gagner l'élection présidentielle. Excusez-moi, juste un mot.
Oui,
Jean-Luc, Monsieur Mélenchon, pardon.
Il n'aime pas qu'on l'appelle par son prénom.
Oui, j'allais dire Jean-Luc, j'ai vite repris. Jean-Luc Mélenchon, il est un peu comme Die Linke en Allemagne. Il veut plus. Il est parti sur un chemin qui est seul, protestataire. Il veut pas, je crois, mettre les mains dans ce qu'on appelle la gauche de gouvernement. Donc, bon, voilà. Je le regrette, c'est dommage, c'est comme ça. Mais on verra s'il préfère quand même au deuxième tour soutenir quelqu'un qui représente une force de progrès. Et puis Macron, s'il pouvait venir, Emmanuel Macron, s'il pouvait venir dans la primaire, ça serait très bien. Et on verra qui peut rassembler, qui a cette force.
Et on sentait il y a quelque temps que vous frémissiez pour Emmanuel Macron.
Non, on a cru ça. Je connais... ça vient d'une chose assez simple. Il est venu à Dijon rencontrer un de ses soutiens qui s'appelle François Patria, qui est un sénateur. Et il l'attendait sur le quai de la gare, pas le maire de Dijon, quand même on est à Dijon, mais le maire de Besançon. Et donc, moi je savais, je partais, je suis passé lui dire bonjour, parce que j'ai été à côté de lui dans un gouvernement pendant un an et demi, et donc j'aime bien l'homme, voilà, je trouve l'homme sympathique et bienveillant, donc...
Oui, mais ça, est-ce que ça fait un président de la République?
Ah, ben ça, c'est un autre sujet, moi je lui dis, viens dans la primaire.
Il a perdu des plumes d'aller dans la primaire.
Bah peut-être pas, hein, parce que si après tout il est persuadé d'avoir cette force et cet élan lui aussi, pourquoi pas, il peut très bien sortir vainqueur de cette primaire à ce moment-là.
Alors si aujourd'hui on vous entend bien, il n'y a pas pour l'instant d'évidence Manuel Valls à vos yeux. Vous dites on va attendre de voir ce qu'il propose, s'il rassemble.
Oui, enfin, je pense le rassemblement.
Terminer du coup, s'il n'y a pas d'évidence Manuel Valls, qui d'autre? Aujourd'hui, pourriez-vous surveiller du coin de l'œil en vous disant, voyons voir si celui-là ou celle-là ne mérite pas mon soutien?
Moi, je vais voir aussi, excusez-moi, je vais répondre à votre question, mais je vais voir également comment Manuel Valls défend et porte le bilan de ce quinquennat. C'est pour moi quelque chose de très important, qui sera aussi un des éléments de jugement. Parce que le bilan, il va être réévalué, mais il est réévalué à condition qu'on le défende.
Réévalué ou réhabilité?
Les deux. Il peut être réévalué et réhabilité. Je pense réévalué, parce que malgré tout, maintenant, il commence à entrer dans les têtes des gens que finalement, Ce quinquennat, bah, il a été un quinquennat de justice sociale, il a permis de rétablir les comptes, on le voit maintenant à la fin de faire baisser le chômage, de créer, permettre aux entreprises de créer de l'emploi. Bon, donc il y a ça. Ça, c'est un élément qui va pour moi, être bien évidemment important et déterminant. Manuel Valls, il faut qu'il le fasse, cela, et ça sera aussi un élément de choix. Il faut me laisser un peu de temps de regarder tout ça. Quoi. Voilà.
Oui, d'accord, et vous déciderez après. Peut-être, pour vous parler...
Je peux vous dire, je ne, parce que ça, c'est mon sentiment, je ne voterai pas pour, je vais vous répondre comme ça pour le moment, oui. Je ne voterai pas pour Arnaud Montebourg ni pour Benoît Hamon.
Oui, et de toute façon, Manuel Valls, a priori, est le seul susceptible de défendre le bilan. Donc, oui. En gros, c'est lui ou personne.
Voilà.
Sauf si vous tournez vers Emmanuel Macron.
Non. Emmanuel Macron, il faut qu'il vienne dans la primaire. Je ne tourne
d'accord,
pas
vers Emmanuel. D'accord, c'est la condition Macron. Pour que vous...
Pour qu'il y ait un débat, pour qu'il y ait un seul. Parce que aujourd'hui, la clé, c'est d'avoir un seul candidat de la gauche de gouvernement, même si c'est une gauche très social-démocrate, progressiste, centre-gauche, oui. Tout ce que vous voulez, pour gagner l'élection présidentielle. Parce que moi, je ne me résous pas, quand je vois le programme, parce qu'on n'en a pas du tout parlé, je vais dire un mot quand
non,
même.
Mais...
Quand on voit le programme de la droite et de François Fillon, je pense que ce programme ne fait pas majorité dans ce pays. Et donc, on a aujourd'hui la possibilité d'empêcher cela et de proposer autre chose. Le président de la République avait commencé à faire une belle proposition qui avait été réfléchie et travaillée. Peut-être elle sera reprise, d'ailleurs, sur le capital de départ, ce patrimoine de départ que pourrait avoir chaque Français quand il rentre dans la vie active. Enfin, bref, on a des choses à porter. La gauche a des choses à porter, des projets à porter, une histoire à défendre, des projets à porter. Et en face, on a pourquoi vouloir aujourd'hui, je m'excuse de dire ça comme ça, pourquoi vouloir aujourd'hui punir les Français, leur faire un programme qui est une véritable purge. Est-ce qu'on a besoin, vous me parliez de gourdin fiscal, est-ce qu'on a besoin d'augmenter de 2 points ou 3 points, ça dépend, la TVA, qui la paye souvent les plus modestes. Est-ce qu'on a besoin de ça pour baisser l'ISF, enfin supprimer l'ISF? Vraiment, je suis...
Manuel Valls était pour de supprimer...
Oui, il a fait 5%.
Oui. Mais... C'est monsieur 5%.
Il a été
méfiez-vous
ministre.
Des messieurs 5%.
Oui, je me méfie toujours des messieurs.
Mais on en a eu un dans la gauche. Revenir à l'équation Valls, c'est quand même très compliqué parce que si il se recentre, il va un peu sur la gauche, on va dire. Les gens, les secteurs électeurs socialistes préféreront l'original à la copie. Ils iront sur Montebourg. Si et il ne gagnera pas, s'il va trop à droite, il y a Macron qui est encore plus libéral que lui. Il est un peu coincé.
Non, à lui de faire ce, à lui de porter. Non, mais je comprends très bien. Mais non, pas du tout,
pas du tout.
Il va pas reprendre les propositions d'Arnaud Montebourg. J'ai entendu parler d'entrepreneurs patriotes. C'est pas des propos que nous tenons. Manuel Valls est un Européen. Il a défendu des positions européennes. Il faut qu'il les garde. Mais en même temps, il a vu des dysfonctionnements. Donc il y a possibilité aujourd'hui d'avoir, je crois, une ligne social-démocrate au centre de ce parti, au centre de cette primaire. Et c'est ce
à quoi... Mais il aura toujours les frondeurs sur le dos. Si... Mettons qu'il gagne.
Oui.
Mettons qu'il gagne. Il gagne les primaires, il gagne la présidentielle, il aura le... On sait bis repetita, il a les frondeurs sur le dos. Il ne peut pas gouverner.
Je pense qu'il fera lui-même, si c'était le cas, les désignations sur une base claire. Et donc, il y aura des candidats qui le soutiendront. Mais moi, je suis pour changer le mode de scrutin. Oui. Permettez-moi de le dire.
Et autre scénario qui, si on en croit les sondages, est un peu plus probable aujourd'hui, s'il ne gagne pas l'élection présidentielle, quid de l'avenir du Parti socialiste? Il va voler en éclat, le Parti socialiste?
Il peut disparaître, oui. Un autre parti peut naître.
Que d'ailleurs, ça, Manuel Valls avait prophétisé lui-même à un moment donné.
Oui, mais
le risque de disparition du PS.
Oui, enfin, disparition, ils évoluent, ils changent, ils changent de nom. La droite fait ça très bien. Demain, il peut y avoir un nouveau parti socialiste. Il peut y avoir un parti socialiste différent.
C'est pas très grave.
Qui reste, bon, pour ceux qui en font partie de son histoire, comme moi, si, c'est grave. Mais je veux dire, c'est quelque chose de normal dans la démocratie que des partis, un jour, toujours est-ce que le cycle d'Épinay, comme on disait, est terminé ou pas pour le Parti Socialiste? On va voir, mais quand il n'y a plus la synthèse mitterrandienne, oui, le Parti Socialiste est en grand danger.
Pourquoi, dans le fond, on dit que le quinquennat, certains disent que le quinquennat de François Hollande est un échec? C'est vrai que vous aviez mal commencé, mais quand François Hollande a pris ce virage social libéral, tous les économistes ont dit, bon, on va dans le bon sens, mais ça a peut-être été mal expliqué, ça a été trop long, la mise en œuvre a été chaotique, la baisse des entreprises, certains l'ont loué en disant que c'était dans le bon sens, dans le fond. Oui. Mais pourquoi ça s'est si mal embouché, alors que la direction, selon encore les économistes, était la bonne?
D'abord parce que c'était pas ce que nous avions annoncé. Nous n'avions pas annoncé que nous ferions une politique de l'offre.
Le tax and spend.
Elle a quand même déstabilisé, parce qu'elle n'a pas eu d'accompagnement pédagogique, elle a déstabilisé une partie de l'électorat de gauche qui s'est dit on fait une politique.
Ça n'est pas le discours du Bourget.
C'est pas le discours du Bourget, même si dans le discours du Bourget, il y avait déjà beaucoup de pragmatisme économique.
Donc l'erreur, elle est où? C'est d'avoir changé de cap?
Non, c'est de pas l'avoir expliqué. Ça, j'en suis sûr. Et de pas l'avoir accompagné à tout moment par la pédagogie. Parce que, d'abord, et d'avoir sous-estimé la profondeur de la crise. Parce qu'il fallait, c'était la quadrature du cercle, et on s'y est employé, il fallait tout à la fois réduire les déficits, parce qu'ils étaient de 5,1% quand on est arrivé avec un euro menacé. Il fallait réduire les déficits, il fallait relancer la machine économique, il fallait redonner confiance, et il fallait réduire le chômage. Tout en maîtrisant la dette. Dans un environnement européen, au mois de l'été 2012, où on pensait que l'euro pouvait exploser. Donc, il n'y a pas eu l'explication, il n'y a pas eu l'accompagnement, et ça, on l'a payé, j'en suis persuadé.
Alors, dans votre livre, En toute confidence, vous évoquez combien il a été difficile pour vous de devoir annoncer tous les mois de mauvais chiffres du chômage. Ça a été comme une espèce de, si j'ose cette image, de chemin de croix.
Non, j'avais dit, c'est un grand moment de solitude.
Oui, mais c'est qui se répète, en l'occurrence. Ça a été,
Oui, bien sûr. Mais
et
vous
quand
savez...
vous étiez parti, boum, ouais. Vous n'avez pas eu de bol, comme dirait François Hollande.
Non, mais j'étais sûr que cette politique porterait ses fruits. J'étais sûr que, en reconstituant les marges des entreprises, c'est pour ça, je l'ai dit plusieurs fois à François Hollande, on est sur un chemin de crête, mais il faut tenir bon, parce que on va reconstituer les marges des entreprises. Elles sont remontées à 32-33%, elles étaient à 27%. On va, en redonnant des marges aux entreprises, redonner de la croissance. Et la croissance est revenue pas assez, mais la croissance mondiale, elle est toujours un peu plus basse qu'avant. Mais on a refait de la croissance. Et l'économie française se remet à créer de l'emploi. 155 000 emplois créés, secteur privé. Hein. C'est pas nous qui avons créé l'emploi, là. C'est l'emploi privé. Ça, c'est une grande satisfaction pour moi. Évidemment, c'est arrivé après mon départ. C'est vrai. Ouais. Je l'ai regretté parce que c'est quand même plus agréable. Gérard Larcher me disait, parce qu'on échange des fois entre anciens ministres du Travail et tout, Gérard Larcher me disait ce ministère est un ministère formidable quand on a des bons chiffres du chômage. Je lui dis oui, c'est vrai.
Ça a participé, ça a contribué à vous décider à quitter le gouvernement?
Ah non, pas du tout. Je serais resté le maire de Dijon, Alain Millau, mon ami de toujours, et n'était pas décédé, je serais resté au ministère, bien évidemment.
Alors, vous évoquez également la loi travail dans ce livre, et vous dites, qui a été mal conduite, hein, vous le dites, et vous dites d'ailleurs très clairement, j'aurais démissionné si j'avais dû porter la loi travail telle qu'elle a été soumise au Conseil d'État. Oui. C'est une charge assez violente, finalement, donc, contre cette...
C'est ce que je pense. Il y a deux ou trois articles que je n'acceptais pas. C'est vrai que je n'aurais pas accepté. Par-delà, la fusée mal partie, c'est-à-dire, je parle de la méthode, où, et là-dessus, il faudra que Manuel Valls s'exprime sur le 49-3, en disant tout de suite, il y aura le 49-3 s'il y a un problème. Donc, ça, déjà, quand vous lancez une fusée en lui donnant pas la bonne orbite, vous n'arrivez pas à vous en sortir. Donc, la méthode était mauvaise. Je suis pas sûr, d'ailleurs, que toute la concertation ait été faite avec la CFDT, notamment le syndicat réformiste, jusqu'au bout.
Sauf vers la fin, où ils l'ont accepté, finalement.
Ils ont bataillé pour que des choses soient revues, notamment l'article 30 bis qui limitait le licenciement au périmètre national et pas au périmètre international. Et puis la baisse du coût des heures supplémentaires me semblait pas justifiée et n'apportait rien, je le crois, à l'économie. Donc, en tous les cas, à la création d'emplois. Donc, c'est vrai que dans ces conditions, j'aurais pas porté la loi travail comme cela. Oui, c'est vrai.
Mais les résultats,
excusez-moi, il y a eu des amodiations qui ont été apportées, il y a eu des améliorations qui ont été faites. On peut que s'en féliciter, mais bien tard, et il n'y a pas eu le compromis à la fin. Moi, je fais tout au long de mon livre, à travers la proportionnelle, l'éloge d'une société du compromis. Je pense qu'une société n'avance que par le compromis. Or,
mais ça fait 30 ans qu'on fait des compromis, M. Rebsamen.
Non, je ne crois pas. On fait des synthèses, mais on ne fait pas de compromis. Les compromis, c'est la possibilité pour une large majorité.
Vous trouvez que la droite a beaucoup réformé avant vous ? Vous trouvez que...
Non, pas toujours, mais il y a des fois des choses que la droite faisait qu'on aurait pu soutenir, ou des choses que la gauche fait qu'on aurait pu soutenir, si on avait eu un Parlement qui puisse, à un moment, créer des majorités d'idées. C'est ce que je pense.
Très brièvement. François Rebsamen, aujourd'hui François Hollande a une liberté nouvelle, n'étant pas candidat.
Oui.
Que doit-il en faire ?
D'abord, continuer sa tâche, c'est-à-dire de bien représenter la France à l'étranger. Ça m'a toujours frappé de voir combien il était respecté à l'étranger et critiqué en France. Donc, continuer à porter haut sa fonction et à protéger les Français.
C'est la fin de cette émission. Merci à Pauline Hellmann et Audrey Atoni qui nous ont aidés à la préparer, et Mardi Politique revient mardi prochain, Roselyne.
Absolument. Merci beaucoup, merci. François Rebsamen. Merci, et à très vite. RFI France.